Cette semaine dans le balado, on veut dominer le marché mondial du cellulaire, on se retrouve en vacances sans maman et on tombe en amour à la frontière mexicaine-américaine. Bienvenue à mon ciné-balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Allô.
Petite semaine, disons-le. Il n'y a pas de gros films américains.
On est, non, gros films canadiens.
Mais... Oui, gros films canadiens, effectivement. Mais somme toute, une semaine assez tranquille.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'à part Blackberry, on a tous vu des films différents.
Oui, c'est ce qui est assez rare qu'on a quand vu même. Oui, semaine oblige. Avant d'attaquer les sorties de la semaine, petit tour d'horizon d'actu.
Moi, je voulais juste revenir un peu sur la grève des scénaristes, ouais. Comme on discutait un peu juste avant d'enregistrer. C'est qu'on dirait qu'on n'a pas parlé la semaine passée. Moi, ça s'en venait un peu, mais je ne l'avais pas remarqué. Puis là, toute la semaine, je l'ai entendu parler. Fait que si jamais nous sommes votre seule source d'information cinématographique, ça fait plaisir. Fait qu'on va vous mettre au jeu. En fait, comme tout convention collective, à chaque 3 ans, il y a une renégociation et un renouvellement. Mm-hmm. Mais là, ça va pas bien, comme c'était arrivé il y a plusieurs années.
Là, en 2007 ou 2008 dans ce coin-là.
Oui, à peu près. Fait que tous les scénaristes à Los Angeles dans la production de cinéma américain sont en grève.
Et la télé aussi, il faut
le
dire.
Oui, effectivement. Ouais. Fait que les deux enjeux principaux, c'est vraiment à cause des plateformes de diffusion, là, de streaming, toutes ces affaires-là, où les redevances sont vraiment, vraiment plus faibles, voire anémiques. Fait qu'il y a beaucoup d'émissions, de télé, de films que c'est conçu de manière à ce que tu n'aies pas des trop gros salaires, mais c'est la vie en plateforme, mais normalement, qui était en DVD, en télévision, en n'importe quoi, toutes les vies subséquentes après le cinéma, qui faisait que les ayants droit recevaient de l'argent, puis ouais. C'était comme ça que c'était rentable. Fait que là, ils parlaient des scénaristes, mettons, d'émissions de télé ou des choses comme ça, là, d'épisodes que... habituellement, pouvoir recevoir un 10-20 000 $ puis essayer de construire leur année avec ça, ben là, finalement, ils reçoivent comme 1 200 $ Fait que c'est comme... C'est vraiment des proportions qui n'ont pas rapport.
Oui, c'est ça. Le modèle économique avait vraiment changé parce qu'aux États-Unis, tu l'as dit, le gros enjeu, ce qui est très payant tant pour les comédiens, les producteurs, souvent les créateurs de séries, c'est ce qu'on appelle le syndication. Donc, c'est quand les émissions tombent en reprise. Mm-hmm. Donc, plus aux grandes heures d'écoute nécessairement, mais ils vont être diffusés à l'ensemble... De différents câbles. Là, le ça. Système américain.
Ils sont achetés
très,
dans d'autres pays
dans
aussi.
Dans d'autres pays là, ouais. Aussi, tout ça. Et alors que là, en streaming, on ne table pas vraiment sur les réécoutes, en fait. Fait que les chiffres sont très opaques, eux n'ont pas accès à ça. Donc, perte de revenus depuis quelques années.
L'achat international sur les plateformes se fait pour des bouchées de pain, là. Fait que.
Ben, c'est sûr que là, tu as un Netflix ou un Disney qui diffuse à la grandeur de la planète maintenant. Donc, tu passes plus par 10, 15, 20 pays différents. Fait que...
Ben, tu as ta propre plateforme, mais les acquisitions sont quand même différentes dans chaque pays. Il y a plein de produits français qui vont jouer juste en France puis qui n'arrivent pas tous ici. Là. Ça dépend de l'entente
effectivement
commerciale que tu prends, mais c'est sûrement pas aussi exigeant qu'acheter une télésérie. Pour dire, hey, je vais la jouer dans son intégralité, etc., ou acheter les droits et la refaire, quoi que ce soit. Là. Bref, fait que ça, c'est un des enjeux. Et l'autre, c'est le ChatGPT, qu'on appelle, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire pas nécessairement de sanctionner puis d'interdire ça, parce que ça s'en vient, là, vous avez dû en entendre parler. On commence à non seulement pouvoir converser, mais créer des illustrations, créer des choses comme ça. Fait que donc, les scénarios et les affaires comme ça s'en viennent. C'est sûr qu'un scénario complet rédigé par un robot serait pas super, super. Mais l'idée, ça serait peut-être de prendre... Tu fais écrire ta première version, là. Fais-moi un drame, comédie dramatique biographique sur l'histoire du cellulaire BlackBerry avec tel genre de personnage, blablabla. Bla, bla, toute la fonctionnalité, c'est la manière d'écrire ta commande.
Ouais.
Puis après ça, tu vas juste voir un scénariste puis tu dis « Ah ben là, je te paierai pas pour un scénario, je vais juste te payer pour fine-tuner, puis puncher, puis corriger les fautes, puis faire des affaires comme ça. » Fait que c'est sûr que ça s'en vient, ne serait-ce que pour des séries d'émissions, là, des épisodes d'une grande série à la Simpson ou des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment tout de suite de réglementer ça. Je pense pas qu'ils veulent empêcher ça, mais...
L'encadrer.
Ouais, l'encadrer pour que si c'est ça la technique qui va s'en venir, ben c'est OK, mais ça prend des salaires décents, puis on va dire, ah, ben t'as pas toi d'auteur, c'est pas toi qui l'as écrit, tu sais, mais il y a aussi que l'intelligence artificielle crée rien, prend des choses, fait des melting pots, c'est pareil en visuel, là, si tu dis, je l'ai pas vu, mais il y a quelqu'un qui a fait, c'est quoi, une bande-annonce de Star Wars dans le style de Wes Anderson.
Ouais, j'ai vu ça. Ouais.
Je l'ai pas vu passer, moi, mais t'sais, elle a pas créé quelque chose, elle a pris ouais. des deux identités visuelles qui existent, elle les a mélangées, elle a pu créer les pixels qui font que l'image est ainsi faite. Mais à un moment donné, ça part pas de rien, là, jamais.
Au niveau musical, je sais pas, t'avais entendu, ils ont fait un jumelage, un duo entre Drake et The Weeknd.
Oui,
les
c'est
gens
vrai.
Pensaient que c'était vrai. Là,
ouais,
fait que
exact.
Ça a généré gros buzz, mais finalement, c'était pas vrai.
Ça. Fait qu'il faut vraiment encadrer toutes les propriétés intellectuelles et personnelles. Là. À un moment donné, ta voix, c'est à quel point c'est marchandable. T'sais, Drake, je veux dire, on l'apprécie, ou n'importe quel chanteur, chanteuse, par les textes, par son image, par des choses comme ça, t'apprécies sa voix, mais après, tu dis, ben oui, j'ai juste à prendre sa voix, puis je peux lui faire faire n'importe quoi.
Et là, c'est capoté. Un gros impact, tout ça, parce qu'évidemment, les scénaristes ne peuvent pas travailler sur les productions qui sont en cours, donc beaucoup de séries télé, de films sont en pause, donc
oui,
plus cette grève va être longue, plus ça va avoir un impact sur les sorties de 2024. Là.
Ah ouais, puis tu vois, effectivement, 2024 à peu près. Puis je pense qu'il y a une clause que si les productions sont en cours, si genre les tournages sont débutés, là, sont comme, ils ont le droit, ils sont obligés de continuer à travailler dessus, mais tout ce qui n'était pas encore en tournage, là, ils peuvent pas. Puis ça a ramené beaucoup d'histoires de. Justement, on disait c'était à peu près 2007-2008, le fameux. James Bond, Quantum of Solace, là, ça a ramené beaucoup d'histoires de ça parce que c'est un film qui était en cours d'écriture. Il allait, l'écriture était un peu finie, mais il allait en production. Puis pour pas que ça retarde de plusieurs années, ils ont rushé en disant non, on commence le tournage là. Donc, comme le tournage commence, on peut continuer à le travailler. Mais il dit, il y avait comme pas de scénariste. Daniel Craig a dit qu'il a écrit des scènes lui-même. Fait que le film peut bien être comme une demi-heure plus court que les autres, puis vraiment plus faible. Là. C'est comme on l'a fait un peu à voler. La force de tout ça, c'est qu'ils sont arrivés à un moment où peut-être qu'il y avait moins d'autres films parce qu'il y en a plein qui ont été retardés ou des choses comme ça, mais en tout cas, c'est peut-être pas la bonne stratégie de se foncer dans le mur rapidement. Là.
Donc, conflit à suivre, effectivement. On va voir quel en sera le résultat.
C'est sûr que ça va être une entente, mais est-ce qu'on va connaître toutes les clauses? Je sais pas à quel point ça va être public, là.
Probablement, c'est un syndicat.
C'est ça. Parce qu'en tout cas, au Québec, toutes les conventions collectives, comme sont régies par le ministère du Travail, sont cautionnées par. Là, je ne vais pas dire d'André, ça fait très longtemps, c'est mes études en relations industrielles. Mais tout est public. Tu peux consulter n'importe quelle convention collective de n'importe quelle compagnie. Mais, je sais pas si c'est pareil aux États-Unis, sûrement.
J'imagine.
Ça doit ressembler un peu.
Si tu es membre de l'Union, tu veux avoir accès à toute cette information.
Ouais, mais elle pourrait être disponible juste
à l'interne.
À l'interne, un peu. Là,
c'est
mais
sûr qu'elle va être coulée en quelque part.
Par un ministère du Travail ou quoi que ce soit. Oh, effectivement. En fait, il y a plein de monde qui doivent être. Peut-être membres de la guilde, mais qui écrivent plus tant que ça ou quoi que ce soit. Fait que, ils vont aller revendre ça à TMZ.
On avait parlé la semaine dernière, peut-être deux semaines, de ce Beetlejuice 2 qui était.
Qui était presque confirmé, très fort dans le moulin à rumeurs.
Là, on a même une date de sortie qui a été annoncée cette semaine, donc ce sera le 6 octobre 2024. Alors, on ne perd pas notre temps, le tournage
mais
doit
ça,
commencer.
Mais ça, c'est exactement si là, tout est ça à glace, je pense.
Si le sais pas, si le scénario a été approuvé, complété.
En fait, ce que j'ai appris, on peut revenir un peu sur la grève, justement. C'est parce que même en tournage, ça prend des scénaristes.
Oui, souvent.
Parce que dès qu'il y a un peu d'impro, qu'il y a quelque chose, t'as comme vraiment des scénaristes qui sont en train de réécrire et d'adapter, puis à chaque fois qu'il y a des changements, tu ne veux pas arriver avec une page blanche et dire « OK, qu'est-ce qu'on fait? » Mais fait que si ces personnes-là sont en grève, c'est pour ça qu'aucun tournage peut débuter. Genre.
C'est ça. Donc, en tout cas, on verra si ça bouge, mais le studio a au moins réservé cette date-là. Et on a confirmé donc, en plus de Keaton, Que ça avait été déjà confirmé. Winona Ryder reviendra. Également Catherine O'Hara, qui jouait l'espèce d'artiste très flyé.
Ouais, eux qui étaient comme des propriétaires de la maison.
Ouais, genre, ceux qui avaient racheté la maison de Gina Davis et d'Alec
Baldwin. Ouais, Baldwin. Là, le monsieur, lui, il doit pas être là.
Ouais, on sait que...
J'ai oublié son nom, mais...
Jeffrey Jones, qui a eu plusieurs démêlés avec la justice. Et puis, donc, Jenna Ortega a été confirmée aussi. Alors, elle jouera la fille de Winona Ryder, donc la fille de Lydia Deetz. Et on a aussi annoncé que Monica Bellucci jouerait la femme de Beetlejuice.
Ah ouais, OK.
Alors, on va explorer peut-être le passé du personnage. Donc, quand même un casting assez
chouette.
Je sais
pas s'ils vont y mettre... elle peut avoir un look qui ressemble à... Comment ça s'appelait, là, la... Ephira, en tout cas, tu sais, la madame qui présentait toutes les films d'horreur, là, souvent, mais qui était plus comme dans
Elvira,
la famille Adams.
Oui, oui, oui.
Comment c'est?
Elvira.
Elvira, c'est
ouais,
ça.
Mistress of the Dark.
Je mélange avec Virginie Ephira, mais en tout cas, Elvira. Je sais pas si. Ben, en même temps, ouais, s'ils veulent pas trop ressembler à la famille Adams, ils vont peut-être pas aller là-dessus, mais tu sais, Monica Bellucci avec des longs cheveux noirs et tout, ça pourrait le faire.
Elle a le casting macabre, c'est certain. Mais oui, ça va être de voir quel côté on va aller avec ce personnage-là. Alors, Tim Burton revient également à la réalisation. Plus près de chez nous, on avait annoncé ça, c'était ça la semaine dernière, le projet du film de Gilles Villeneuve.
Oui.
Ben, là, on a annoncé finalement qui incarnera notre pilote, Rémi Goulet, qu'on a pu voir, entre autres, au cinéma dans Junior majeur, à la télé, à l'Académie. Donc, je pense qu'une bonne bouille, il ressemble aussi... pas si mal, là. Fait que je pense
je
que
sais pas quoi
bon
ressemble,
mais
Gilles Villeneuve...
Tu iras googler ça.
Mais c'est ça, j'en discutais avec d'autres collègues, puis je me demandais quel genre de biofilm ça donnerait. Mais Gilles Villeneuve est mort vraiment jeune.
Oui,
parce que
début
c'est ça,
je pensais à
c'est Rémi Goulet, t'as dit
ouais.
Son nom? J'étais comme, mais là, tu sais, ils prennent un gars de genre 30 ans, ils vont-tu le faire vieillir jusqu'à... Puis il est mort à comme 32,
ouais,
mais
ça me
33,
c'est 32,
là,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
Fait que, donc...
Ouais, parce que Jacques était un enfant, je pense qu'il avait 5-6 ans, même pas. Là, donc,
okay.
Je m'en rappelle encore vaguement, mais je me rappelle lorsqu'on avait annoncé sa mort et mon père, je me rappelle qu'il était assez troublé par ça. Tu sais, ouais. On regardait pas du tout nécessairement la Formule 1, là, mais... Je pense que c'était plus le symbole, puis cette manière tragique qu'il est décédé. Donc, on va suivre évidemment son ascension de pilote de course ici jusqu'à Ferrari. Et c'est Rosalie Bonenfant qui va jouer sa conjointe, Joanne Villeneuve.
Ça, c'est un tournage qui débute, hein, justement.
Ouais, je pensais que c'était à l'automne que j'ai cru lire.
Fait que aussi, probablement, été 2024, peut-être, ou novembre. Genre,
ouais, je sais pas si
c'est. Des biopics, c'est pas mal ça, là.
Ouais, ben, c'est le gros film québécois, fait que ça va être soit l'été ou Noël.
Ouais.
Ça va être une de ces deux plages-là. Mais honnêtement, je pense que ça devrait très, très bien fonctionner, je pense.
Hmm.
Parce que c'est pas un personnage non plus qu'on a sur. C'est utilisé,
ouais.
À la télé, j'ai pas de souvenir qu'il y ait eu de série de mémoire. Donc, le terrain est quand même vierge. Puis,
ouais, il y a pas du... Je pense que s'il y avait des séries, on l'aurait su parce que ouais. Ça doit coûter assez cher là, en mettant des courses de voiture et tout. Là.
Tout à fait.
Puis, l'autre affaire, c'est sur Guy Lafleur aussi. Ben là, le tournage,
oui,
on est plus
vrai.
En écriture ici. C'est Luc Picard, si je me souviens bien, qui écrit ça.
Mm-hmm.
Fait que ça va être aussi dans les grosses œuvres de...
C'est vrai que
la
place
peut-être plus dans 2-3 ans, là, je sais.
Ouais, bonne question. Écoute, peut-être même un
ben, c'est en écriture. Si ça se passe bien, ça peut être l'an prochain, tout de suite, ils annoncent le tournage.
Ça pourrait être Noël 24 ou sinon 2025. Mais en tout cas, deux figures mythiques de notre culture qui seront portées à l'écran. Ben oui, tout à fait. Moi, ça fait le tour des nouvelles.
Ouais, ben on peut aller vers les bandes-annonces québécoises, justement.
Ouais.
Fraîche d'aujourd'hui. Testament de Denis Arcand, son prochain film apparaître le 4 octobre, avec encore une fois Rémi Girard dans le rôle principal et une incroyable brochette de comédiens-comédiennes, je pense qu'on en avait parlé, dont Marie-Mé, qui va être dans son premier rôle, disons, visible au cinéma, parce qu'elle avait fait du voice acting dans
Les trolls, entre autres. La Schtroumpfette, ça se peut-tu
aussi? Elle a fait, la Schtroumpfette, puis aussi les Ugly Dolls, puis des choses comme ça. Là, fait qu'un peu de post-synchro. Mais, sauf qu'on ne comprend pas trop son rôle. Il y a tellement de personnages dans la bande-annonce que tu vois que c'est un homme dans un ancien... comment dire, penseurs, là, c'est tout le temps des hommes de lettres, là, ces personnages, qui est dans une résidence pour personnes âgées. Puis là, il y a comme plusieurs choses qui arrivent avec soit la direction de tout ça, il y aurait une peinture qui serait...
Enfant-centre,
c'est ça, pour des Premières Nations. Fait qu'il y a des manifestations, puis là, la politique s'en mêle.
C'est sûr que c'est une grosse satire, évidemment, politique, comme Denis Arcand se plaît à faire. Mm-hmm. Alors, on espère que c'est effectivement son film Testament qui sera à la hauteur de ses grands films. Mais très, très curieux de voir ça. Justement, juste en termes de casting... Je trouve ça d'air assez chouette. Là.
Oui.
Donc.
Sophie Lorrain, en Sophie directrice du centre de personnes âgées. Ouais. Okay. Mais en fait, c'est vraiment. Les autres, tu comprends que c'est des anciens amis, que c'est des aux ressources humaines, aux communications, en politique, mais vraiment, le personnage de Marie-Mé est très cryptique, je le sais pas.
Ouais, on voit qu'il y a un rapprochement avec ce personnage de Rémi Girard, mais
ouais,
on comprend pas.
Ça a l'air de
fâcher
les autres, mais ouais, qu'on sait pas c'est qui.
Et peut-être même sa fille qui s'en va être jouée par Charlotte Aubin, parce okay. que c'est à la frousse, mais je sais pas si c'est ça. Puis on voit quelques visages quand même connus là, de la filmographie de Lepage, de Arcand, donc Robert Lepage, et Yves-Jacques aussi, qui vont venir faire leur petite apparition. Donc, au mois d'octobre pour Denis Arcand et son testament. Les jours heureux ou tard, version québécoise.
Ouais, peut-être, j'espère qu'elle ne sera pas aussi toxique.
Ouais.
Le nouveau film de Chloé Robichaud avec Sophie Desmarais qui incarne une chef d'orchestre, une jeune chef d'orchestre mm-hmm. qui cherche à prendre, pas le contrôle, là, mais avoir le poste là, pour diriger je sais plus si c'est l'OSM ou autre chose. Là, en tout cas,
que ce soit l'orchestre d'un... De Montréal, mais
ouais,
effectivement, je ne sais pas si c'est fictif ou un vrai orchestre. Mais...
Puis ça sort aussi en octobre, 20 octobre, mais ça a l'air très bon ça, avec son genre de père gérant joué par Sylvain Marcel qui a mm-hmm. l'air à la pousser comme un bon père sur un jeune joueur de hockey. Là. Mm-hmm. Vrai. Et que ça a été fait en collaboration aussi avec Yannick Nézet-Séguin,
ouais,
je pense.
Ouais,
là, c'est
chef d'orchestre.
La direction, puis s'assurer du réalisme de mm-hmm. tout ça. Fait que j'ai hâte de voir ça dans une période charnière où il est full de stress, puis sa relation, tu vois que le personnage principal est homosexuel, est en couple avec probablement une des, une des musiciennes, je sais pas quel ouais. instrument qui joue aussi dans
l'orchestre. C'est pour ça que ça me fait juste un peu peur, là, après tard. C'est sûr que probablement que le sujet est différent,
ouais,
le
parce
ton,
que
mais on est dans les mêmes... Certaines mêmes thématiques.
Ouais,
là,
sauf que dans Tar, on avait plus du grooming, puis c'était une chef établie qui soudainement avait des problèmes. Là, c'est plus.
Mais t'es quand même en couple avec une musicienne, t'es le premier violon.
Oui, pis... c'est vrai, ok. Puis là, en plus, elle avait des infidélités, pis des choses en même. Je pense pas que ça va être cet aspect-là. Je pense que ça va être plus l'aspect de la carrière, un peu, puis du dernier push que ça prend pour être sur le bord de la grosse ligue. Très comme le sport, finalement. Ouais. Hein, parce qu'il y a, justement quelqu'un qui fait le commentaire à un certain point, dire « Ok, t'es très académique, là, il faut que ça va prendre de la passion puis du guts un peu, là, si tu veux te démarquer. » Mm.
Oppenheimer, quand même, la bande d'annonce officielle.
Hey, je l'ai même pas écouté.
Ouais.
Je pense que je l'ai ouvert sur un onglet, puis dans une multi-onglet.
On en voit plus et on voit...
Elle explose-tu, la bombe?
on gardera le punch. Mais non, ça a l'air vraiment très, très bien.
On doit voir un peu plus de tous les fameux 92 comédiens, comédiennes qui sont dans ce film-là.
On comprend que Danny Jr. joue probablement une espèce de sénateur. Ça doit être un vrai personnage parce que c'est inspiré d'une vraie histoire. Mais je ne sais pas si c'est McCarthy ou en tout cas une espèce de sénateur là, un peu pitbull. De ce que je comprends, il semble y avoir des séquences en noir et blanc aussi. Fait que je pense que ça va être un petit peu éclaté au niveau visuel. Mais oui, on voit vraiment que l'armée recrute tous ces têtes pensantes-là, ces scientifiques-là. Puis on va construire cette petite ville fictive dans le désert là, pour qu'ils travaillent là. Mais ils vont être amenés là sans savoir quand est-ce que leur travail va prendre fin. Fait que, tu sais, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Là. Fait que ça va être évidemment différentes personnalités assez fortes. On voit même Albert Einstein qui est joué par un acteur, Conti, je pense, dans les années 80. Là, il avait joué dans After Hours de Scorsese. En tout cas, c'est sûr. C'est un visage peut-être qui est. Ah oui, peut-être, là, mais tu n'as jamais
grand
connard. Non. mais non, il ressemble assez bien. Donc, fait qu'allez voir ça si ça vous intéresse. Le film promet.
Oui, je vais très bien. Pas le regarder. Ouais, je sais que je veux voir le film, surprise. Ce fameux. Cet ovni, cet obus, ouais. Cet obus-là de 3 heures qui sort le 21 juillet.
En tout cas, la reconstruction historique a l'air, bien évidemment, très, très haute, comme Nolan sait bien, c'est si bien le faire.
Ça doit être dans les biopics les plus dispendieux, drames biographiques à genre 100 millions de dollars.
Ouais.
Et dans un genre qui est en train de peut-être me débiliser tranquillement, The Meg 2.
Ah, toi, moi, je suis pas allé le voir.
je sais pas. Des fois, ça arrive que les dans ma tournée de YouTube ou je sais pas quoi, les bandes annonces pop à un moment inopportun. Fait que je fais, ah, ok, je vais regarder ça plus tard. Puis d'autres fois, ben, j'ai vraiment le temps. Fait que souvent, c'est là, je vais l'écouter tout de suite. T'sais. Puis je me souviens d'avoir vu le 1, pas au cinéma, je l'avais vu par après.
Ouais, moi aussi. C'était pas si mauvais. Honnêtement, non, c'était comme un ça. Plaisir coupable.
Ben, c'est exactement ça. Puis, ouais. Puis je pense qu'il répète la formule ici en. Ben,
avec des finalement... plus gros requins.
Ouais, c'est ça. Dans plus gros encore, plus de problèmes. Je pense qu'il y en a plusieurs. Puis on sort à la même période, là, début août. Fait qu'on se dit, garde, si on a eu un succès à ce moment-là, on va pas essayer. Des fois, c'est le problème des films. Tu fais ton premier beaucoup de succès, tu arrives à ta suite, tu dis, hey, on avait eu du succès en février, c'était inescompté, Deadpool avait fait ça. Là. Mm-hmm. Fait que finalement, le deuxième, on le sort plein juillet, d'un blockbuster, en deux semaines, en deux Transformers. Puis là, ben, soudainement, ça passe sous sa casse, alors que tu avais une petite plage un peu bizarre bien à toi. Fait que moi, je respecte ça de plutôt dire, non, nous autres, notre place, là, notre film de plage puis de requin, ça se passe au mois d'août. Fait que je peux pas dire que je suis très excité, là, mais je vais peut-être... en fait, je vais visiblement aller le voir au cinéma, celui-là.
Bah oui, parce que c'est le genre de film que ça prend toute une autre dimension, grand écran, là, veux pas, là, avec ces scènes d'action démesurées et tout ça. Donc,
mais la ligne est mince, comme tu sais que je suis en train de développer une grande passion pour Rapide et dangereux, mais tu sais, la ligne est mince entre le stupide, pas le fun, puis le juste
le
stupide,
pleaser,
le fun. Là, ouais, exactement, c'est ça. Il ne faut pas bouder son plaisir dans ces affaires-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons puis tout le fun. Là. Mais tu sais, il y avait eu un gros succès d'argent, c'est pour ceux qui ont fait le deuxième. Ça. Fait que deux gros films d'action pour Statham cet été. Là, ben, dans Rapide et dangereux, il y a un parmi tant d'autres.
Mais il sera quand même dans The Expendables 4 en septembre. Donc,
ouais, ça, tu vois, ça, j'y crois pas. qu'on verra quand on aura des images.
À mon temps,
mais...
j'avais vraiment... adoré le 2. Ben, adoré, c'est un grand mot, aimé. autant que le 3 m'avait laissé un peu de glace.
Ils sont toutes mêlées dans ma tête, je ne sais pas vraiment. Mais
le 2, c'était avec Chuck Norris. On avait le fameux cameo de Chuck. Et finalement, on voyait quand même Stallone et Schwarzenegger dans des scènes d'action ensemble. Là, alors que dans le premier, c'était juste la petite séquence de à l'église. Tandis que puis c'était Jean-Claude Van Damme, le méchant dans le 2, si ma mémoire est bonne, qui faisait
pas dans
un bon méchant.
Okay, je pense.
Non, ça, c'était pas dans le 1. Puis dans le 3, c'était Mel Gibson, qui était beaucoup juste un peu trop sérieux, je pense. Puis Harrison Ford aussi, qui venait remplacer Bruce Willis, en tout cas.
Mais est-ce que après que Stallone et Schwarzenegger ont fait leur film où ils s'évadent de prison ensemble, c'est après les Expendables ou...
Je pense que le 1 était avant, puis ils ont fait l'autre après, le truc de prison, entre le 1 et le 2.
Puis ces affaires-là, il y en a comme 2, 3, 4, mais je pense que Schwarzenegger n'est plus là, puis à un moment donné, c'est même...
Dans les trucs de prison?
Ouais. Stallone est peut-être là dans les 2, 3, puis à un moment donné, c'est même plus eux, puis c'est juste tout le temps du monde.
Très bien, puis écoute, je ne sais même pas s'il était dans le 2, honnêtement, mais peut-être qu'il y a comme un...
Au lieu d'être des heist movies qu'il faut rentrer dans une banque, c'est juste des... faut sortir de prison, puis c'est juste ça l'excitation du film. Là.
Ouais, non, puis ça a été une déception quand même. Bon, juste,
ouais, c'est ça.
On s'égare, mais quand
c'est
même...
C'est moi qui nous pars là-dessus.
Moi, ce que je trouvais, c'est que... J'étais content, je me rappelle... d'avoir été voir le film, d'être content de les voir ensemble. C'était comme le fantasme.
Des Expendables,
Non, de Escape Plan.
Escape Plan, je pense.
Parce qu'Expendables, évidemment, Et ben, comme je disais, il avait juste partagé une courte scène ensemble, donc ça avait été, c'était le fun, mais c'était un peu décevant. Mais Escape Plan, c'est que ça arrivait juste trop tard dans leur carrière. Là, ils étaient quand même pas mal plus âgés. Je pense qu'aucun des deux t'y voit en chest parce que.
Ben oui,
ils sont plus. C'est ça, surtout que Schwarzenegger, une période là, qui était un peu moins peut-être en forme.
Ben, j'imagine qu'il était gouverneur.
C'est ça. Donc, tu sais, fait que ça aurait été le film sorti en 90, tout le monde aurait capoté, mais là, ça a comme sorti un peu. Voilà.
C'était pas. Pour en finir, il y a Dolph Lundgren qui
ça, c'est dans l'Expendables. Ouais.
Ouais, mais il vire méchant dans. C'est-tu dans le premier?
Je pense que c'est dans le. Non, je pense que c'est dans un, effectivement, mais c'est semi-méchant. Là, parce que
c'est vrai que c'est le 2 qui est comme le meilleur de cette franchise. Là. Ben, c'est une franchise. Je mets des guillemets radiophoniques parce que c'est pas si iconique que ça, mais en tout cas. Ouais. Mais tu vois, finalement, Rapide et Dangereux, le fait à cette heure d'avoir eu The Rock, puis Statham, puis tout ce monde, puis Diesel, puis tout ce monde-là ensemble. Genre.
Ouais.
Fait que, bref,
allons
si
avec
on
les sorties de la semaine. Moi, je vais tout de suite avec mon coup de cœur, qui j'imagine va être le tien aussi. Allons-y avec Blackberry de Matt Johnson.
Oui, bien sûr. Matt Johnson, je ne connaissais pas cette chèvre. Je ne savais pas c'était qui, mais c'est un comédien, scénariste, réalisateur canadien. Fait que j'ai vu qu'il y a une émission de télé, mais je ne sais pas si c'est comme... un poste de TV ou une émission web ou quelque chose comme ça là, qui s'appelle c'est quoi, Nirvana de Ben de Thor ou un truc comme ça là, qui l'a fait assez connaître.
Mm-hmm. Ben oui, mais je pense qu'il reste assez niché, moi, honnêtement.
Oui, c'est ça, mais je pense que c'est peut-être dans l'humour
Canada-anglais.
Ouais, puis ouais. Même genre Toronto.
Ouais,
là,
c'est ça.
Fait que, puis c'est ça, une couple de films, mais c'est vraiment ça qui l'a fait. Qui l'a apporté jusqu'à nous, finalement. Fait que Matt Johnson réalise, co-scénarise et joue aussi dans le film. Mais les personnages principaux sont joués par Jay Baruchel, justement, le Montréalais anglophone, et Glenn Howerton, qui, lui, je pense, est un Américain, mm-hmm. pas sûr, connu pour It's Always Sunny in Philadelphia, entre autres. C'est le rise and fall, donc le succès et la chute du fameux cellulaire téléphone intelligent BlackBerry, qui est une invention canadienne qui avait débuté dans les années 80. Le film il est comme en trois périodes, on voit à peu près trois changements de date.
Mm-hmm.
Dans les fin 90, 94, 96 de mémoire à peu près.
96, oui.
À Waterloo, en Ontario, que c'est... Mike Lazaridis, pardon, joué par Baruchel, et Douglas Fraggen, joué par Johnson, qui sont deux génies de l'informatique qui ont en main une espèce de savoir-faire technologique qui leur permettrait de combiner les téléphones cellulaires qui commençaient quand même à cette époque-là, même si c'était pas si populaire pour le public. Là,
non,
ça existait déjà.
Pour les gens riches et célèbres.
Ça, c'était aussi l'époque où il y avait encore des téléphones dans les autos aussi. Oui, je me souviens du père de mon ami qui avait ça. Puis un ordinateur, dans le fond, donc de combiner les courriels et ça, puis vraiment sur le but de rejoindre, je pense, les hommes d'affaires quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Et sauf que financièrement, ils sont un petit peu tout croche. Leur compagnie s'appelle déjà Research and Motion, mais c'est plus des whiz que
des hommes d'affaires.
Que des hommes d'affaires, exact. Puis finalement, vient à eux ce requin-là, Jim Balzilli, qui va s'associer avec eux à condition d'être CEO, donc président de la compagnie.
Mm-hmm. Bon, lui, qu'il rêve de grandeur, de richesse,
ouais,
de prestige.
Il y a quand même une façon de faire, mais il veut le succès plus que juste créer la technologie. Mm-hmm. Fait que ce que tu comprends, c'est que dans la compagnie, tu as d'un bord ceux qui développent les technologies, puis l'autre qui pousse pour la mise en marché, la vente, puis le bien paraître, puis toutes ces choses-là. Fait que ça travaille un peu avec deux silos, puis ben, à un moment donné, tout ça va chier parce qu'ils vont faire chacun des affaires un peu de leur bord, ils vont être obligés de faire des concessions qui vont nuire au téléphone, et surtout, ça va être éventuellement l'arrivée du iPhone
et
qui,
voilà,
lui,
ouais.
tient toujours. Fait que BlackBerry a fini par fermer, mais ça fait pas si longtemps que ça, considérant le gros crash et tout. Mm-hmm. Ça fait comme 10 ans à peu près que c'est fermé. Pourtant, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un BlackBerry. J'aurais dit plus 15 ans, mais bon.
Ouais.
C'est peut-être juste moi. Fait que, tu sais, ben, on spoil un peu. Il reste plein de choses à découvrir, mais je veux dire, c'est une histoire vraie, là. Vous savez qu'il n'a plus de BlackBerry. Oh, tiens. Ben, il fallait parler de cellulaire pour être interrompu par un appel. Ben, en gros, c'est ça, ouais. Fait que je dis, on spoil un peu, mais tu sais, c'est une histoire connue, mais il y a quelque chose de... très cool là-dedans. Ça reste que c'est un film. C'est adapté d'un roman qui s'appelait qui s'appelle Losing the Signal, The Untold Story Beyond l'extraordinaire Rise and Fall du Blackberry. Puis, mais tu sais, on a grossi certains personnages, je pense.
Ça n'est pas effectivement l'histoire pour du cash. Ce que Johnson a dit en entrevue, c'est qu'ils ont gardé de vrais événements, mais ils ont vraiment brodé une histoire alentour de ça. Ça demeure un film. Donc, on a combiné plusieurs personnages, plusieurs événements. Et ça se veut quand même, il y a un côté très tragicomédie. Il y a quand même beaucoup d'humour dans le
traitement. Un peu imbécile heureux, des fois.
Oui, c'est ça. Puis, mais c'est un film qui est vraiment bien écrit, de très bons dialogues. Dans la réalisation de Johnson aussi, on a un style qui rappelle beaucoup The Office, là. Espèce de faux documentaire, caméra à l'épaule.
Des zooms sur les réactions des gens.
Ouais, c'est ça, là. Fait qu'on sent quand même parfois des malaises. Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et porté par deux comédiens, Jay Baruchel, méconnaissable avec sa perruque blanche qui est très drôle. Et surtout, ben, la révélation, c'est ça, c'est Glenn Howerton en Jim Balsillie qui joue avec une intensité assez remarquable, là, avec ses, très caractériel. Et pour les amateurs d'histoire, on se souvient qu'à l'époque, Jim Balsillie avait tenté à maintes fois de mettre la main sur une équipe de hockey pour la déménager à Hamilton. Donc, c'est traité dans le film aussi. Là,
il voulait une deuxième équipe en Ontario.
Ouais, ouais. Lui, c'est un gros tripeux de hockey. Puis,
exact. Moi, je me souvenais beaucoup de la passe des Coyotes, genre 2009-2010. Mais là-dedans, on parle plus d'une des premières fois avec les Pingouins en 2006 quand Mario Lemieux voulait vendre. Puis en lisant, même entre les deux, il y a eu une fois avec les Prédateurs de Nashville, donc en 2007, je pense. Mais je pense que c'est un melting pot de ça. Ils ont mis les pingouins dans le film, mais il y a certains événements, le fait que ça a été su qu'ils voulaient la déménager, ben là, ça c'est arrivé plus tard, mais ils ont comme tout mis ça ensemble. Comme on dit. Puis Howerton, c'est vraiment... lui, il a des cheveux, là, il a une grosse crinière. J'ai entendu en entrevue, même quand il était jeune, au primaire et secondaire, il se faisait appeler Curly, là, tu sais, genre un frisou, mettons. Là, parce
qu'il a dit que c'était une perruque ou il a rasé?
Il a rasé. Il a rasé, puis il a dit...
Il prend des cuts.
Ouais, puis j'ai vu en entrevue, c'était cool, c'est une entrevue avec Baruchel, Johnson puis Howerton, les trois ensemble, fait qu'il y avait beaucoup de réparties. Mm-hmm. Puis... il comptait, Johnson, qu'il est arrivé dans la caravane, dans le trailer de Howerton, puis il était comme... Il était genre fasciné devant le miroir, puis Howerton se trouvait plus beau comme ça.
Ah ouais.
Mais dans le fond, il y a comme une couronne, il est comme rasé sur le top avec les cheveux un peu plus courts autour. Puis il était comme « Ah non, j'aimais ça, là, ça me libérait de moi d'avoir mes cheveux frisés, de m'être fait toujours écœurer, puis des affaires comme ça. »
C'est drôle.
C'est vraiment drôle, parce que là, en tournée, en entrevue, il y a tout... le film a été tourné il y a peut-être 2 ans. Là. Fait que, il a tout regagné, son pouvoir capillaire. Fait que c'est quand même drôle. Il est un peu méconnaissable en ce sens-là. C'est une transformation physique très intéressante.
Oui,
finalement.
Vraiment, vraiment.
Puis c'est, tu vois quand même qu'il est rasé parce que il y a beaucoup de cheveux, il y a pas de cheveux puis beaucoup de cheveux autour. Alors que d'habitude, une calvitie, tu vas avoir un certain dégradé. Je pense quand même qu'ils ont fait. Là. C'est pas... Il a essayé de faire de quoi, mais ça paraît mieux que l'inverse, des fois, quelqu'un qui n'a pas de cheveux, que tu rajoutes une perruque, puis là, tu sais que c'est...
Ben, c'est sûr que, justement, dans le cas de Baruchel...
Ben, c'est plus parce que ça marche, mais je veux dire, c'est parce que tu le connais, puis tu le sais que c'est pas ça, sa coupe de cheveux.
Puis, en plus, ses cheveux blancs de même... Écoute, peut-être qu'à cet âge-là, c'était le cas. Là, Steve Martin a eu les cheveux blancs très jeunes, mais c'est sûr que ça clash parce qu'on sait qu'il a encore les cheveux très, très bruns, là, puis il paraît jeune. Mais
ben, c'est ça, je ne sais pas le vrai Lazaridis. Je ne peux pas aller voir de photos non plus, je ne sais pas.
D'ailleurs, lui, il n'a pas vu le film, puis il ne planifie pas de le voir. Je pense qu'il est
un peu... Il sait qu'il n'est pas traité en héros dans ce film-là.
Ouais, c'est ça. Puis, mais Basili, lui, l'a vu, puis il a trouvé ça très drôle, mais comme il a dit, il faut le prendre comme une comédie noire, là, une satire, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de choses. Même parce qu'on le fait pour on le fait paraître vraiment comme un méchant puis un salaud qui a comme brisé des lois tout ça, qui aurait pu puis qui aurait pu aller en prison tout ça, mais finalement ça c'est vraiment inventé pour le film, mais ça fonctionne. On a une trame narrative
une tension
là, tout ça.
Puis Johnson il disait que lui il a pas écrit de comédie, c'est juste que Mais il y a le film et le résultat de ce qu'il voulait, mais il dit « Moi, j'ai pas écrit des blagues. Je suis pas arrivé non plus en scène puis dire « OK, ça, c'est une scène plus dramatique, les gars, faut la jouer plus intense. Puis celle-là, ah là, c'est plus funné, lâchez-vous lousse. » Tu sais, c'est pas... Il en a fait beaucoup d'émissions comiques, d'affaires comme ça, mais mm-hmm. Il dit « Ce film-là, je l'ai pas attaqué comme ça. » Mais la comédie, ça fait partie de tout. Ça fait partie des dialogues, ça fait partie ouais. De choses comme ça. Puis c'est au montage que ça a popé. Okay. Il a dit à son monteur « Ben, si tu vois des choses drôles, ben là, faut quand même que tu le tamises un peu, là, pas que ça mm-hmm. soit... ça devienne juste une plaisanterie tout ça. » Mais c'est ça, de filmer des réactions des gens, des choses comme ça. Il y a une certaine scène où, à un moment donné, justement, là, tu sens que Research in Motion s'est rendu vraiment gros, là, un gros quartier général et tout. Puis il dit toujours, hey, « Les gars, vous devez faire blablabla, les gars. » Puis là, ça filme juste une fille, là, très The Office, là, de voir juste une fille qui est comme... Il arrête pas de dire « les gars » puis tout. Puis... c'est quand ils ont lu le livre aussi, là, ils disent c'était vraiment ça, c'est que c'était pas toxique. Ben, c'est toxique pour d'autres raisons, mais il n'y avait pas de filles. Puis quand les filles rentraient, ils disaient c'est normal, un environnement de gars, c'était comme, c'est ça, fin 90, des mm-hmm. filles un peu plus, tu sens que c'est des geeks, c'est des nerds, mais c'est des programmeurs, des choses comme ça. Ben, ils n'avaient pas vraiment à ce moment-là. Genre.
Ouais, et qui sont pas toujours fait qu'elles à sentaient l'aise assez, dans les relations. Là,
exactement, ouais, alien là-dedans, là, d'être comme, OK, je suis juste avec des bros qui puent du tour de bras. Là. C'était le cliché quand même là un petit peu, mais pas, c'est pas Spaceballs, là, c'est pas une parodie, ce film-là.
Non.
Mais non, c'est vraiment frais, puis je vois les critiques qui commencent à sortir partout, puis sont quand ouais. même excellentes, vraiment. C'est ça, comme on s'en cache pas qu'il y a quelques libertés, mais ça construit une histoire très le fun à
écoute, oui,
suivre,
tout à fait.
Absolument.
Une histoire canadienne en plus. Mm-hmm. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à accomplir quand même, occuper cette place-là dans le marché international pour une petite gang de gars qui venaient de Waterloo en Ontario. Là. C'est assez remarquable.
Qui fait un petit saut dans le temps. Là. Il nous représente des éléments de ces années-là, justement, des années 90, 2000, début 2000. Puis on va quoi jusqu'en 2007-2008, je pense, ouais. dans le film. Puis je pense au Pound Pilot. Là. Quand ça arrive, t'es ouais. comme « Eh, ça existait, cette affaire-là! » Puis c'est qui? C'est Elvis?
Ouais, Carrie Elvis, oui.
Je sais plus comment on le prononce, Elvis, qui incarne ce gars-là qui est justement très requin. Là. Il y a le côté des finances de « t'es en bourse, moi je suis plus gros que toi, je peux aller te faire une prise hostile, je vais aller acheter toutes tes actions, puis je vais pouvoir décider. » Fait que il y a ces côtés-là intéressants. Puis ouais. Johnson disait souvent en entrevue récemment comme « moi, là, comment ça s'est programmé le téléphone, puis comment ça fonctionne, puis la passe-passe qu'ils ont trouvé, parce que ce brio-là, en fait, là, mm-hmm. c'est pas juste physiquement ce qu'ils ont fait, mais comment ils ont fait pour utiliser ces réseaux cellulaires-là et joindre les courriels puis le téléphone et tout. Dit, j'ai aucune idée comment ça marche. J'ai pas essayé de l'apprendre, j'ai pas appris. Le film démontre pas cette avancée technologique-là. On parle juste de la compagnie puis des choix entrepreneuriales qui ont été faits, si mm-hmm. on veut. Fait que j'ai respect pour eux, parce qu'ils faisaient des présentations dans des universités et des choses comme ça. Juste, là, vous êtes plein de scientifiques. Moi, je connais rien. Là. Moi, je suis un cinéaste. Là.
Okay. Donc, BlackBerry, absolument à voir, honnêtement. Un des très bons films de l'année jusqu'à présent. Très solide, intelligent. Alors, allez voir ça si vous aimez ce genre de film-là.
Qui fait bien paraître les films canadiens, comme on oui, a dit, qui oui. des fois sont souvent un petit peu boboches, mais tout c'est pas fait. Le cas ici. Fait que là, ben, on peut aller où
vas-y,
tu veux.
Vas-y passer. Avec...
moi, j'irai avec Carmen
ben,
à ce
vas-y
moment-là.
Avec Carmen.
Carmen, qui est le premier film de Benjamin Millepied, qui, lui, est un célèbre danseur et chorégraphe français, qui est un des premières étoiles... à l'Opéra de New York, au New York City Ballet, c'est ça, puis qui a été le danseur vedette aussi à l'Opéra de Paris. Fait que c'est vraiment une grande tête de la danse.
Mm-hmm.
Fait que c'est son premier film, c'est l'Opéra de Carmen, mais c'est pas l'Opéra de Carmen, dans le fond. Fait que c'est juste une très libre adaptation de, pas nécessairement l'Opéra de Georges Bizet, mais même si on retourne à la nouvelle de Prosper Mérimée qui a inspiré... L'opéra de Georges Bizet. Fait que toutes les musiques, là, l'oiseau est un... L'amour est un oiseau rebelle qu'on ne peut emprisonner, quelque chose comme ça, ou capturer, là, blablabla. C'est pas là. Il a juste gardé, je pense, un petit truc de cœur qui revient dans une musique. Mais reste que visuellement, c'est capoté et au niveau du son, c'est capoté. Mais c'est quoi l'histoire? Je peux quand même vous le dire rapidement. C'est qu'il y a une jeune Mexicaine, on est vraiment ailleurs, on n'est plus à Séville en Espagne. Il y a une Mexicaine qui est... sa mère vient d'être assassinée par des criminels et craignant pour sa vie, va décider de traverser la frontière mexicaine-américaine. C'est contemporain, ça pourrait se passer aujourd'hui justement avec l'abolition de la loi 42 et toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, du côté américain, il y a Aiden, qui est un ancien Marine qui est encore dans des syndromes post-traumatiques et qui a à peu près la seule job possible dans son bled perdu, c'est qu'il surveille la frontière comme un peu de milice. Là, fait qu'il aide les professionnels, puis s'il voit de quoi il rapporte. Puis là, ils vont voir ces quelques Mexicains-là essayer de traverser. Puis là, il va arriver quelques conflits et pris d'une espèce d'empathie ou d'un genre de pitié pour Carmen. Va décider de s'enfuir avec elle. Et là, à partir de là, les deux vont être recherchés, vont se sauver jusqu'à Los Angeles. Puis elle, elle va essayer de retrouver sa tante ou l'ami de sa mère pour pouvoir s'abriter. Puis lui, va tranquillement grandir de plus en plus. C'est son PTSD au travers de tout ça. Fait que c'est un peu un film. Ben, c'est un film, mais ça ressemble un peu aussi à un opéra ou une pièce de théâtre. Fait que c'est comme un peu entre les deux. Pas exactement comme aller voir une pièce de théâtre filmée, mettons. C'est pas un huis clos. On est dans plein d'endroits.
C'est pas des faux décors non plus.
C'est quoi tu dis?
Il n'y a pas de faux décor non plus.
Non, c'est ça. On est vraiment dans le désert, souvent, des fois dans des bars, des choses comme ça. Fait que c'est quasiment un road movie un peu à certains moments. C'est pas une comédie musicale non plus. Il n'y a pas des chansons puis de la danse à toutes les 10 minutes. Ça prend quasiment 45. C'est un film de 2 heures. Ça prend peut-être 45-50 minutes avant que ça commence à avoir des chorégraphies de danse. Puis il y a. J'ai souvenir, Paul Mescal chante une chanson, là, guitare-voix, un peu très folk. Je me souviens pas si c'est Melissa Barrero, si elle chante. Rosy de Palma chante une chanson. Sinon, c'est plus musical que chanté. Fait que c'est beaucoup axé sur la danse, un genre de... Okay. Que je pourrais pas décrire, je connais pas assez la danse, un genre de ballet, danse contemporaine, quelque chose comme ça. Je les ai nommés un peu, mais les comédiens, comédiennes, Melissa Barrera qui fait... Carmen, on l'a vu en musical dans In the Heights, mais dans la série Scream, c'est elle qui est la fille de...
La nouvelle de héroïne.
Oui, c'est ça. Et Paul Mescal, qu'on a vu récemment dans After Sun, qui a mérité d'ailleurs une nomination aux Oscars comme meilleur comédien, mais surtout connu pour, à la télé, la série Normal People, et qui va être dans Gladiateur 2, nommé. Et Rosy de Palma, qui est une actrice espagnole qui a été découverte par Pedro Almodovar, fait qu'elle a joué dans presque tous ses films, qui est aussi une actrice polyglotte, multilingue, en tout cas, elle parle plusieurs langues, dont le français, mais pas dans ce film-ci. En fait, justement, c'est moitié anglais, moitié espagnol, le film.
Okay.
Fait que je crois que c'est juste disponible en version sous-titrée, il n'y a pas de version française comme telle. Mais la musique, j'ai oublié Nicolas, j'ai-tu noté? En tout cas, celui qui a fait la musique, c'est vraiment bon, c'est vraiment puissant. C'est Nicolas Britell, parce que c'est un Américain. Il avait eu, entre autres, des nominations aux Oscars pour la musique de Moonlight, de If Beale Street Could Talk et de Don't Look Up plus récemment. Il a fait beaucoup de musique pour Adam McKay, pour ses films en général. Fait que je trouve aussi que c'était vraiment un film de cinéma. Malheureusement, moi, je l'ai vu en lien de visionnement, mais c'est tellement puissant, comme tout ce qu'il y a là-dedans. Au niveau de l'histoire, c'est ça. C'est un petit peu plus... simpliste. Attendez, il y a des dialogues qui sont très, justement, écrits, là, qui font pas très conversation réelle. Ouais. Mais je pense que c'est voulu dans cette approche-là. C'est ça. C'est vraiment, moi, je trouve, une fusion entre le cinéma et l'opéra. C'est comme entre les deux, mais disons, et le théâtre. Parce que, comme je dis, il n'y a pas tant de grands chants, il n'y a pas de ténor, puis de castafiore, puis de qui viennent chanter. Il n'y a pas ça dans les comédiens. T'sais. Fait que... Mais c'est un grand drame romantique, tout ça, autour de Carmen. Parce qu'à l'origine, j'ai lu, puis c'était un... quand ça a commencé, quand Bizet a décidé d'adapter cette histoire-là, de faire l'opéra, ça, comme en 1845, ou peut-être 1875, un petit peu après l'écriture de la nouvelle, ça a vraiment mal passé, là, à la... c'était pas l'Opéra de Paris, c'était la comédie dramatique, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom, je m'en excuse à tous ceux qui savent ça, là, mais une importante place à Paris. Puis c'était full mal perçu parce que ça traite vraiment comme des mœurs, puis d'infidélité, puis des choses comme ça. Fait que
C'était des thématiques controversées.
Oui, exact. Puis les gens n'aimaient pas ça du tout. Ça a pris... il en est même mort, Bizet, après à peu près 30 représentations. Okay. Ben, je pense pas qu'il jouait dedans. Peut-être qu'il dirigeait, je sais pas. Puis il finit par décéder, tout ça. Fait que c'est devenu un succès posthume. C'est qu'après ça, je pense que quelqu'un a repris la pièce. Quelques années plus tard, l'a amené, je pense, à Bruxelles. Peut-être que les mœurs étaient plus ouvertes. Là, c'est devenu un hit. Puis là, on a reconnu aussi le génie de la musique qu'il y avait derrière. Okay. Fait que c'est devenu... Je pense que c'est l'opéra le plus joué, qu'il disait, que j'avais lu quelque part. Ou du moins, l'un des plus joués. C'est ça. Fait que c'est un succès posthume que Bizet. C'est pour ça qu'il n'a pas fait grand-chose d'autre par après. Déjà, je pense qu'il il galérait un peu avant d'arriver là-dessus. Fait qu'il fait partie de ces artistes... un peu tourmentés qui n'ont jamais eu le succès de leur talent. Voilà, puis fun fact que j'ai appris... en fait, Benjamin Millepied avait aussi fait la fameuse chorégraphie de Black Swan. Tout le film de Darren Aronofsky des années 2012, je pense. 2010 à peu près, peut-être.
Ouais,
en tout cas, dans ce temps-là, c'est lui qui avait fait qui avait chorégraphié ça. Puis c'est là qu'ils ont rencontré Natalie Portman. Je savais pas, puis c'est son mari.
Mais oui.
Je savais qu'elle était mariée, mais je savais pas que c'était avec lui. Puis ils sont encore ensemble, puis ils ont deux enfants. Fait que ça, c'était la chronique potin, mais potin 10 ans en retard.
Ben oui, elle a brisé mon cœur. Mais bon, ça, c'est pour une autre histoire.
Fait que, en parlant d'une autre histoire, toi, quel film t'as vu cette semaine?
Ben, moi, je suis allé voir dans un film de tout autre registre, Un plaisir coupable, 10 jours encore sans maman de Ludovic Bernard, avec Franck Dubosc. Je dois avouer que j'aime bien ces comédies. Souvent très familial.
T'en étais déjà confessé.
Ouais, je pense qu'il est probablement son film de l'an dernier. Ben, habituellement, il y a toujours un bon rythme, toujours une comédie par année.
Ces comédiens-là, comme on dit, en France, il y a beaucoup de productions. Ouais. Fait que oui, il en tourne un ou deux par année.
Puis c'est une facture très américaine, très slapstick aussi, là, dans ce style-là. Ça peut être très bien fait.
Prendre des fouilles en ski.
Ouais, tout ça, évidemment. Là, fait que, mais ça, dans les années 80, avec Chevy Chase ou Steve Martin, ça aurait passé. Là, fait que c'est très accessible, justement, moi qui n'aime pas toujours l'humour français, qui n'aime pas l'espèce d'humour français, espèce de farce ou très dîner de con, puis ces affaires-là. Là, j'ai bien de la misère avec ça quand c'est trop théâtral. Fait que peut-être que moi, ça me rejoint plus. Justement, là, quand c'est plus un Nord-Américain dans la facture. Donc, on retrouve le personnage de Franck Dubosc qui est dans le premier film, 10 jours sans maman, qui a connu quand même un bon succès. Alors, c'est une famille, avec le père de 4 enfants qui perd son emploi. Et puis, bon, on va se retrouver à la maison avec 4 enfants, 2 ados, un pré-ado puis un jeune qui ont beaucoup de caractère, disons ça comme ça.
Okay.
Et puis finalement, à la fin du premier film, il acceptait son rôle, finalement. Là.
Mais sa femme, c'est la mère des enfants.
C'est la mère des enfants. Et, ouais, donc,
mais c'est elle qui travaille à côté. Elle est avocate, je pense.
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, dans cette suite, alors on retrouve la famille qui doit partir en classe de neige dans un beau resort style Mont-Tremblant dans la région de Courchevel.
Dans des Alpes.
Oui, tout à fait. Mais évidemment, la mère, dont la carrière va plus ou moins bien, se fait finalement offrir un contrat, en fait, pour
une cause,
ouais, plutôt, merci. Donc finalement, à la dernière seconde, alors qu'elle arrive pour embarquer dans le TGV, ben, elle va décider de rester parce que pour elle, c'est comme une dernière chance là, de traiter d'une grande affaire qui va peut-être pouvoir lui permettre de travailler dans un grand cabinet d'avocats, parce que là, pour l'instant, elle a sa petite business qui fonctionne plus ou moins. Donc, évidemment, Franck Dubosc se retrouve seul pendant quelques jours.
Lui qui pensait avoir cela coulé douce.
Effectivement. Évidemment, ça va être le bordel parce que c'est pas un père qui a une grande autorité, on doit dire ça aussi.
Okay.
Donc, écoute, c'est ce que c'est. Des gags très visuels, mais quand même des personnages qui sont attachants. Surtout le jeune comédien, honnêtement, qui joue le personnage de Jojo, là, qui est joué par Evan Paturel. Vous allez tomber en amour avec lui. Là. Il y a un petit peu plus de place parce qu'il est rendu un peu plus vieux, peut-être 5-6 ans, 6-7 ans. Fait que voilà. Je trouve ça sympathique, honnêtement, ça me fait rire.
C'était ce que tu pensais que ça serait, donc
tout à fait. Si vous voulez un divertissement très léger, une bonne comédie familiale à voir avec vos enfants, C'est certain qu'ils vont trouver leur compte, ils vont rire. Seul questionnement, peut-être que ça aurait été plus pertinent de sortir ça cet hiver.
Oui, parce qu'ils font
du ski, fait que voir ça au mois de mai, ça va être un petit peu moins tentant, là, je dois l'avouer. Ça a été peut-être mieux de sortir ça en février. Oui,
ben, même en mars, ça aurait plus passé.
Oui, c'est ça.
Mais bon.
Mais donc, si vous êtes amateur de Franck Dubosc et de ses comédies, c'est dans la continuité de tous ces autres trucs. Et honnêtement, c'est, je me rappelle plus de son autre série aussi. Là. Je sais pas où c'était chaque membre de la famille tombait dans le corps de l'autre et tout ça. Là.
Oui, oui, oui.
C'est sorti il y a quelques années.
Mais il y en a eu plusieurs de ça ou juste un film?
Je pense qu'il y en a eu peut-être eu deux de mémoire. Ou c'est pas
un genre de Freaky Friday. Là,
ouais, c'est ça. C'est genre de faire comme celui-là aussi, Dijon encore en ce moment, qui pourrait être très, très bien adapté aux États-Unis. Là. Fait que peut-être juste une question de temps aussi avant que ça se fasse.
Mais,
là,
mais... d'ailleurs, c'est une adaptation d'un film argentin.
Ouais, ok, c'est ça, je me demandais.
Mais le premier, c'était l'adaptation. Puis là, eux, il y a la suite. Parce que t'as des droits légaux encore à l'original.
Donc, c'est
mais
le personnage et tout.
Le deuxième est une histoire créée pour le personnage de Dubosc.
Qui était d'ailleurs déjà conçu lors du tournage du premier film. Je pense qu'ils ont eu vraiment un plaisir à tourner ça. Et vu le succès, ben, on a tout de suite embarqué dans la scénarisation et production de cette suite-là.
J'ai vu, c'est un film beaucoup plus niché. Là. Je sais qu'il est... Je pense à Québec, il est au cinéma Le Clap, puis je pense qu'à Montréal, il est au cinéma du Parc, je crois. Peut-être au Beaubien, en tout cas, à vérifier. Fait que oui, une distribution très limitée, mais c'est un drame romantique, Joyland, qui nous vient du Pakistan, de Saïm Sadiq, qui signe son premier long métrage. Puis d'ailleurs, le film est toujours, même si il a passé à Cannes en 2022, il a gagné le Grand Prix dans Un certain regard.
Mm-hmm.
Il a gagné la Queer Palm. Mais évidemment, au Pakistan, le film est toujours interdit.
Ben ouais, ouais.
Il ne peut pas être projeté là-bas.
Mais juste par prophète dans son pays.
Ben, je veux dire, s'il gagne la Queer Palm, vous allez voir où ça s'en va.
Mm-hmm.
Dans Joyland, on suit le discret et timide Haider qui vit dans une petite maison à Lahore, au Pakistan, avec sa femme, son père à lui, son frère qui est la femme de son frère, puis leurs quatre enfants. Donc, deux frères, leur père, chacun leur femme, puis il y en a un qui a quatre enfants. L'autre, Haider, il a zéro enfant. Fait que il n'a pas de travail depuis très longtemps. Fait que il s'occupe comme un peu des enfants. Il aide sa belle-sœur, dans le fond, avec les enfants, avec son père qui a un septuagénaire en chaise roulante. Fait qu'il fait un homme à la maison, finalement. Puis sa femme, elle travaille dans un salon de coiffure et maquillage. Puis elle aime vraiment ça et elle s'émancipe là-dedans. Sauf que le but, c'est quand même que lui trouve une job et il finit par trouver un emploi dans un cabaret de style un peu Bollywood. Fait qu'avec des... Parce que les mœurs sont différents, là. Fait que c'est pas de la danse nue, c'est pas des danseuses, mais c'est des danseuses un peu sexy, mais en paillettes, qui font des shows, puis c'est majoritairement des hommes qui viennent les voir. Puis lui, l'emploi qu'il trouve, c'est comme danseur. C'est-à-dire qu'il va être un... Il va faire partie de la troupe de cette personne-là. Fait que pour mettre en valeur, il y a des danseurs qui font des chorégraphies derrière pendant qu'elle aussi danse, mais tu sais, il y a pas de poteau, il y a pas d'affaires comme ça.
Ce qui est quand même... Bon goût.
Oui, c'est ça. Mais c'est avec les mœurs, c'est voilà. Ça fait que c'est quand même mal vu un peu de travailler là-bas. Là. Fait qu'il dit qu'il est plus gérant de salle que vraiment danseur. Mais la particularité encore, c'est que ça va y prendre un certain temps, mais réaliser que la danseuse pour laquelle il travaille est une femme transgenre, en fait. Donc, il était anciennement un homme. Fait que ça, c'est quand même... Ça passe pas tant bien socialement puis au point de vue du public. Et le gros enjeu, c'est que puisqu'il vient de se trouver un travail, ben là, ils ont quand même besoin d'aide à la maison. Donc, c'est sa femme qu'on va dire, ben naturellement, toi, on te retire du travail puis tu viens aider. Elle qui s'est émancipée à travailler puis qui on sent pas qu'ils veulent des enfants, ben, se retrouve dans cette vie-là. Fait que plus lui va sentir une attirance vers la danseuse, la Biba, comme une certaine affection pour elle, découvrir ce monde-là, cet univers-là, et plus sa femme, elle, va se sentir prisonnière dans le quotidien, ces choses-là, dans une vie que c'est pas ce qu'elle rêve de vivre. Mm-hmm. Fait que tout ça est dans une espèce de climat où tu vois qu'il y a une certaine jeunesse, et des personnages qui ont peut-être, tu sais, je sais pas, 28, 30 ans, là, 27 ans, là, qui tendent à vouloir changer, mais c'est pas comme une manifestation de tout le monde veut changer. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans ces façons de faire-là. Et la manière de filmer, on sent qu'il y a de l'empathie pour tous les personnages. Comme tous les points de vue sont bienvenus. Il n'y a pas de grand méchant dans cette histoire-là.
On ne porte pas
de
jugement sur les personnages.
Et chose très singulière, j'avais vu ici, tu sais, la distribution vient d'un distributeur aux États-Unis qui ont fait faire une bande-annonce qui a un ton assez dramatique quand même. Puis en France, ça a l'air beaucoup axé sur la danse, très comédie romantique un peu et tout. Fait que j'étais là, je savais pas ça serait quoi le ton réel des deux. C'est sûr que la bande-annonce joyeuse est plus vendeuse un peu, mais le ton réel est plus dans le dramatique. La danse, c'est pas un film de danse. Oui, il faut qu'il apprenne à danser parce qu'il est poche et tout, mais c'est pas...
Pas Magic Mike.
Non, vraiment pas. Ou un peu comme Fragile, tu sais. Il apprenait à danser, mais... C'était pas pour faire du gros show-off, puis c'est pas ça qui est excitant à regarder dans le film. Tu sais. Fait que c'est un peu pareil ici, il y a quelques séquences, sont bien filmées et tout, mais c'est pas c'est ça, là, c'est pas comme « Ah, il rêve d'être un danseur depuis souvent les relations entre les humains. Tu » sais. Fait que c'est ça qui est drôle, c'est que toute cette relation-là aussi avec le changement de sexe, le rôle que la société nous impose, avoir des enfants ou pas, désirer en avoir ou pas, tu sais. Autant on dirait, tu sais, c'est les mœurs du Pakistan, une chance qu'ils ont ces films-là pour aider à avancer, mais tu sais, ça s'applique encore ici. Ouais. Là, on pense qu'on est au-devant, mais pas tant que ça, je pense. Là, c'est juste que peut-être la religion, surtout au Québec, a une moins grande portée, mais juste aux États-Unis et tout, on le voit là avec le recul sur l'avortement, sur plein de choses, sur plein de droits des femmes.
Fait que c'est un récit d'émancipation où les personnages... cherche à s'accomplir peut-être au-delà de ce que la société leur impose.
C'est pas comme un coming of age, là. Tu sais, je vous parlerai pas de la résolution du film, je vais vous laisser le découvrir pour ceux qui s'intéressent. Mais c'est quand même un de mes coups de cœur de la semaine aussi, moins feel good que Blackberry, là. Mm-hmm. Mais toutes ces tensions dramatiques au sein de la famille, de trouver un emploi, la relation, tu sais, toute la femme qui peut rien dire, rien faire aussi, mais c'est pas un film qui est nécessairement fâchant. Là. Des fois, il y en a comme ça. Sais que ma mère, elle m'en parlait là, quand elle voit sur des tabous musulmans puis des choses comme ça, que ça la met hors d'elle d'être brimée comme ça. C'est pas l'effet que j'ai ressenti. C'est pas le sentiment, pardon, que j'ai ressenti. Mais... fait que je recommande Joyland. Sinon, il y a deux autres sorties qu'on n'a pas vues, comme tel que promis, que ça ne nous tentait pas. Book Club 2 de Next Chapter, donc Club de lecture, le chapitre suivant. Fait qu'avec quand même des pionnières du cinéma, Mary Steenburgen, Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen aussi, Andy Garcia. C'est dans le fond un peu la suite du premier où ces quatre amis-là se retrouvaient au trou d'un club de lecture puis qui avaient toutes des vies différentes, des célibataires, des veuves, des choses comme ça. Là, cette fois-ci, elles sont tannées de la pandémie. On est comme dans un temps réel. La COVID est derrière nous. Fait que les quatre femmes décident de partir en Italie célébrer l'enterrement de vie de jeune fille de Viviane qui va se marier. Puis il va leur arriver plein de mésaventures et d'aventures loufoques. Honnêtement, je sais pas si elles lisent des livres dans cette suite-là, parce que selon la bande-annonce, ça a plus l'air d'être autour des livres. C'est juste l'amitié de ces femmes qui avaient un petit club de lecture. T'sais.
Ce qui est quand même drôle, c'est qu'on dirait qu'Andy Garcia s'est rendu son nouveau casting, là.
Sexy monsieur de 60 ans.
Ouais, c'est ça,
ouais.
Là, parce qu'il était dans Mamma Mia 2, puis dans un autre, me semble que le titre m'échappe. Là, fait qu'il est comme reconverti.
Écoute, ils vont faire un My Big Fat Greek Wedding 3. Je sais pas s'il place. Mais il est pas grec, mais il pourrait être. En plus, dans le nouveau, ils s'en vont en Grèce. Fait qu'ils pourraient le croiser en Europe. Là, ça serait intéressant. Andy Garcia. Partout. Puis l'autre, il y a le film d'aventure fantastique Knights of the Zodiac, Knights dans le sens de chevalier, qui est une adaptation en prise de vue réelle d'une populaire
Série manga, manga animé qui a connu un gros succès à une certaine époque, là, je pense à la fin des années 80, début 90.
Ok, je pense pas que c'était vieux comme
ça. De mémoire, là, je sais que c'est comme entre Goldorak et Dragon Ball, là, mais... J'en ai jamais lu.
C'est un genre de.
En France, c'était vraiment culte. Là.
Fait que là, ici, c'est les coprods américains, japonais pour refaire ça. Ça se passe tout en anglais. Sean Bean, Famke Jensen. C'est ça. Je pense que c'est.
Ça s'adresse aux fans.
Ça s'adresse aux fans. Je pense que c'est pour essayer d'en faire une franchise en prise de vue réelle. Ici, au Québec, il n'y a même pas de version française. Là. Fait que ça dit qu'il ne vise pas très large, je pense, avec ce film-là. Et je crois qu'il est juste disponible à Montréal. Et selon, en tout cas, les premières critiques, je ne sais pas s'ils vont se rendre loin dans ce nouveau projet de franchise-là. Voilà. Pour dire ça poliment, lisez entre les lignes. Mais la semaine prochaine, une franchise qui, elle, se rend loin dans ses volets. J'ai très, très hâte à Fast X, Rapide X, qui est réalisé par le français Louis Leterrier, ouais, cette fois-ci. Écoute, j'ai réécouté le 4, le 5, le 6, le 7. Fait que là, peut-être qu'en fin de semaine, il y a 8 puis 9, puis je vais être pas mal à jour. 1, 2, 3, je m'en souviens pas mal plus. Là.
Ouais, moi, je suis dans le dilemme. Est-ce que je les réécoute ou en partie? J'ai pas vu le précédent, fait qu'assurément, lui, je vais l'écouter.
Je pense qu'il serait intéressant parce que Cypher fait toujours partie des méchants, là, donc Charlize Theron. Mm-hmm. Hey, je vais vous préparer, c'est ça que je vais faire, je vais préparer un beau là, résumé comme un soap opéra de qu'est-ce qui se passe, qui meurt, qui revient, qui comme
excellent.
Ça pour être à jour. Ouais, c'est ça, je vais faire ça, ça va me prendre... J'ai essayé de l'expliquer à ma blonde, puis j'étais vraiment mêlé moi-même. Elle me souvient, ça, c'est dans lui, puis là, il revient. Puis là, parce que l'ordre des films n'est pas l'ordre chronologique de l'histoire. Ils ont comme joué avec ça à un moment donné, puis là, blablabla. Mm. Fait que, mais bref, dans le 9, il présente John Cena, qui est le frère de Vin Diesel, de Dom Toretto.
OK.
Fait que c'est important de le voir. Ben oui, ils ont l'air... Les look alike, comme on dit. Ben les deux, ils ont des gros biceps, ouais, fait qu'ils sont pareils. Puis ils n'ont pas de cheveux. Non, Cena, il a des cheveux. Oui, il y a des cheveux. Il y a beaucoup de chauves dans cette série-là, c'est pour ça.
C'est vrai.
Fait que je sais qu'il revient, fait que de voir comment est-ce qu'ils peuvent être ennemis jusqu'à amis, de frère à ennemi à ami à nouveau. Puis il y a d'autres films, si jamais c'est pas ça qui vous intéresse, mais comme on dit, on est lancé dans la saison du blockbuster. Il y avait un petit trou cette semaine, mais après ça, on va s'en suivre La Petite Sirène, puis le Spider-Man Across the Spider-Verse, ouais, etc., etc. D'ici là, ben, écrivez-nous comme d'habitude balado au singulier @monciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori avec Indiana Jones en couverture, comme on disait. Et il y a une entrevue avec Danny Bernier, dit Babu, mm-hmm, qui parle de sa vision des chars, des voitures au cinéma, donc un peu Rapide et dangereux, mais ça ne parle pas exclusivement de ça. En fait, c'est toi qui t'étais entretenu.
Bien
avec
sûr, ben
lui.
Oui, tout à fait. Alors, lui, un grand amour pour le classique Days of Thunder. Alors, vous pourrez lire là-dessus.
Ouais, on pourra, faudrait, dans deux ans, là, dans un an, le contactera pour écouter Gilles Villeneuve
ouais,
à ce moment-là. Ça pourrait être popé. En tout cas, on brainstorm à micro ouvert. Fait que, ben voilà, qui conclut cet épisode.
Ben oui, sur ce bon cinéma, bon popcorn, et surtout, n'oubliez pas d'éteindre votre BlackBerry lorsque vous serez en salle.